qui vient de disparaître de l'histoire. Jamais plus, les paysans ne seront des Versaillais. Jamais plus, ils ne s'opposeront à ceux qui veulent changer cette société. Nous l'avons prouvé.
La pierre no se vende, se lucha y se defiende.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Le 17 avril 1996, une manifestation du mouvement des sans-terre au Brésil est attaquée par la police qui tue 19 personnes. Pour les 20 ans de cette journée, devenue Journée internationale des luttes paysannes, les paysannes et paysans dans la lutte des classes prend l'antenne pendant 24 heures.
Du 16 avril à 15h au 17 avril à 15h, retrouvez l'émission paysanne de Radio Canu avec au programme des discussions en direct avec des paysans paysannes, des directs avec des actions et mobilisations à l'occasion du 17 avril, des rediffusions de reportages et entretiens pour comprendre les réalités et les luttes paysannes.
Le programme complet sur le blog de l'émission blog.radiocanu.org, lutte paysanne au pluriel.
Les gens qui se déclarent paysans, la tête lourde.
Les paysannes et paysans dans la lutte des classes.
On continue sur le volet international avec l'intervention donc d'Héloïse du projet REACT, donc une petite association qui est basée à Grenoble et qui s'occupe de mettre en lien des victimes, des travailleurs, des riverains, des populations villageoises de différents pays qui sont victimes d'abus de la part de multinationales. Et dans le cas précis qui va être explicité tout de suite après, il s'agit donc des plantations, notamment des filiales et consortiums liés au groupe Bolloré. Si tu veux lancer, c'est dans la place.
Le REACT, donc, c'est une association qui est basée en France, qui a été créée fin 2010. Donc moi, je suis en charge d'une des campagnes dans cette association-là. Le but de l'association, c'est vraiment d'appuyer l'organisation collective là, de citoyens et travailleurs pour qu'ils puissent défendre leurs droits économiques, sociaux, face aux violations ou à des abus d'entreprises multinationales. Donc vraiment, en gros, c'est par rapport à une situation, un constat aujourd'hui d'asymétrie de pouvoir entre des grandes entreprises qui ont la maîtrise d'une grande partie des ressources au niveau de la planète par rapport à des personnes qui en sont démunies. Et ces entreprises, c'est un peu comme un géant ou une pieuvre à plusieurs pieds, avec un pied dans un pays, un pied dans une autre, avec chaque filiale. Et le but du REACT, c'est d'arriver justement à mettre une épine dans chaque pied. Donc le REACT, c'est ça, c'est des militants qui sont dans ces différents pays pour pouvoir défendre les intérêts des plus démunis par rapport à certains abus de ces entreprises dans certaines filiales. Donc le but, c'est de pouvoir en gros fournir un marchepied à ces personnes qui peuvent être affectées ou concernées par certains problèmes pour qu'ils puissent atteindre ce géant-là et pouvoir se retrouver à négocier. Et donc pour pouvoir l'atteindre, en gros, il y a plusieurs marches à gravir. Il faut donc d'abord, on se base sur des choses. Donc qu'est-ce que ces gens ont en commun? Ils sont touchés par une même entreprise, mais dans différents pays. Et donc c'est arrivé à partir de ces problèmes communs, pouvoir les allier. Donc la première marche, la première étape, c'est l'organisation. Donc de voir comment on peut allier toutes les personnes qui sont touchées par un même problème, par une même entreprise, mais dans différents pays. Ensuite, la deuxième marche, ça va être la revendication. Donc comment on va transformer ces problèmes en demandes, exprimer ces demandes par rapport à l'entreprise. Et souvent, malheureusement, exprimer ces demandes ne suffit pas. Et donc, il va y avoir la troisième marche d'action collective, donc on privilégie l'action directe non violente pour pouvoir faire pression quand l'expression des demandes ne suffit pas, arriver à faire pression sur l'entreprise et arriver à atteindre la négociation. Parce que la négociation, voilà, c'est un rapport de force, donc il faut avoir suffisamment de pouvoir dans la négociation pour arriver à pouvoir défendre ses intérêts. Donc voilà, l'objectif du REACT, c'est de construire le pouvoir de ceux qui n'en ont pas seuls pour pouvoir négocier avec ces entreprises-là. Une des campagnes principales sur lesquelles on s'attardera peut-être plus, c'est par rapport aux riverains des plantations qui sont contrôlées par le groupe Socfin et Bolloré, donc dans différents pays en Afrique et en Asie. Il y a d'autres campagnes donc, d'alliance de travailleurs par rapport au groupe B2S. Donc, c'est un centre d'appel qui est en France et au Maroc. Donc, où le but, c'est de mettre en lien les travailleurs avec différents syndicats qui sont présents dans cette alliance-là pour qu'ils puissent, pareil, mettre en lien leurs forces et pouvoir défendre ensemble leurs intérêts. Et une autre entreprise donc je ne peux pas citer le nom pour l'instant, qui du coup est plus pareil en France, au Maroc, Chine, Philippines, Malaisie, où là, voilà, c'est des alliances syndicales, alliances des travailleurs, et qui se construisent progressivement.
Donc, vos actions ne sont pas spécifiques au monde rural, mais c'est vrai que pour ce qui nous intéressait, ce soir-là, dans les 24 heures des luttes paysannes, c'était de regarder un peu ce qui se passe du côté... des plantations, ça concerne donc des plantations de palmiers à palmes et plantations d'EVA dans des pays, que ce soit d'Afrique ou d'Asie.
Et effectivement, donc là, une des campagnes que l'on mène, c'est un appui aux riverains de ces plantations-là. Donc c'est des agro-industries, comme tu l'as dit, un palmier à huile et EVA, donc pour produire de l'huile de palme et du caoutchouc, qui sont présentes dans plusieurs pays en Afrique et au Cambodge et en Indonésie, en Asie. Donc c'est le groupe Socfin, qui est une holding luxembourgeoise, basée en Belgique, mais avec des sociétés opérationnelles qui sont dans différents pays, en Suisse, donc basées au Luxembourg, mais qui ont des sociétés en Suisse et en Belgique, et qui est contrôlée en partie par le groupe Bolloré. Donc le groupe Bolloré détient 38,75% directement du groupe Socfin, mais a également des participations directes dans certaines des plantations ou des sociétés opérationnelles. Donc voilà, le groupe Bolloré n'est pas l'actionnaire majoritaire, mais il y a une participation importante dans ces plantations-là. Donc ce groupe, il détient 180 000 hectares de plantation, là, donc fin 2014, c'est les chiffres les plus récents qu'on a. Et sur les dernières années, il y a une augmentation importante de la surface de ces plantations. Donc là, si on regarde, en 2010, il y avait 104 000 hectares, et en 2014, 180 000 hectares. Donc ça fait près de 29% d'augmentation en 4 ans, sachant qu'il y a eu déjà des implantations par le passé. Certaines entreprises sont là depuis de nombreuses années dans les pays. Et donc voilà, ça augmente les tensions foncières et donc des conflits qui pouvaient déjà être présents dans certains pays. Donc pour illustrer ça, par exemple, je peux vous donner l'exemple du Libéria, où j'ai passé du temps il y a plusieurs années et encore dernièrement, où là c'est une concession, donc il y a 8000 hectares, donc c'est uniquement de l'EVA, donc pour créer du caoutchouc. La plantation a été créée en 2012. Il y a 40 villages qui ont été touchés, donc soit qui étaient sur les terres qui maintenant sont occupés par la plantation, soit qui étaient autour et utilisaient une partie de ces terres pour des cultures vivrières. Plus de 5000 familles qui ont été touchées donc par les activités de cette plantation-là. Et là, les problèmes que les villageois ont rencontrés suite à l'implantation et aux activités de cette entreprise, c'est notamment la destruction des cultures sur les terres qu'ils occupaient, les déplacements des villages, également les destructions de tombes des ancêtres qui étaient présents sur ces terres-là, et certaines forêts qui étaient utilisées pour les ressources, donc de collecte, de chasse, la pêche dans les cours d'eau pour certains qui ont été pollués par la suite. Et donc il y a eu, voilà, tous ces les activités ont créé pas mal de tensions et il y avait eu des soulèvements pour essayer de résister, mais beaucoup de répression. Donc rien qui avait pu être fait jusqu'ici. Et donc là, le but, voilà, c'est la première étape de l'organisation, donc d'arriver à voir tous les villages, là, les 40 villages qui sont touchés par ces mêmes problèmes, comment on peut s'organiser. Et donc il y a quelques leaders donc, des différents villages là, qui, avec l'aide d'organisateurs du REACT sur le terrain, de voir comment on peut s'organiser, donc en rassemblant les différentes personnes dans les villages qui ont envie de se mobiliser, de faire des réunions, de pouvoir élire leurs représentants pour voir comment porter vraiment collectivement ces problèmes. Ils avaient interpellé plusieurs fois la direction, mais ça n'avait pas abouti, donc refus de dialogue de la part de la direction sur ces problèmes-là, une fois donc l'expression des demandes, mais qui n'était pas allé plus loin. Et donc, ils décident, là, comme ils avaient fait plusieurs démarches, mais que ça n'avait pas abouti, de faire un autre type de pression, de s'organiser en une mobilisation de masse, un peu. Donc, ils font une grande réunion pour décider ça, et ils décident qu'ils vont aller marcher tous ensemble, à des centaines de personnes, devant la direction, dans les jours suivants. Juste, du moment que cette décision avait été prise, quelques jours après, avant que l'action... que la manifestation ait eu lieu. Et finalement, la direction leur envoie un message en disant qu'elle accepte de les rencontrer. Et donc, elle envoie le lendemain une voiture pour pouvoir récupérer les différents porte-paroles. Donc là, les six leaders, donc les représentants des différents villages qui se retrouvent donc amenés par la voiture de l'entreprise. Donc voilà, ils s'étaient entraînés pour la négociation. Donc là, c'est une autre partie du travail donc, que les organisateurs ont pu appuyer, de faire des jeux de rôle pour se préparer à défendre les demandes, lister précisément aussi quelles demandes allaient être portées, lesquelles étaient les plus importantes et prioritaires. Et donc là, par exemple, les demandes portaient principalement sur la reconstruction des villages qui ont dû être déplacés, donc avec des maisons et des infrastructures, donc des écoles, des aires de jeu pour les enfants, des préaux collectifs pour le village, des pompes à eau pour permettre d'avoir de l'eau potable, la compensation des cultures vivrières qui avaient été détruites lors des extensions, des routes pour atteindre les villages qui sont les plus isolés derrière la plantation. Et également, une des demandes importantes, c'est de l'embauche pour les riverains, donc que l'entreprise embauche davantage de personnes qui sont issues de ces villages-là, car en réalité, une très très grande majorité des travailleurs sur la plantation, donc qui embauchent des milliers de travailleurs, ne viennent pas des villages riverains, mais d'autres parties du pays. Donc les riverains s'étaient organisés, étaient prêts à défendre un peu ces revendications-là. Et finalement, la voiture, au lieu de les amener à la direction comme ils attendaient, les amène au poste de police et leur lisent leurs droits et leur chefs d'inculpation. Donc ils sont accusés d'incitation à la révolte et de destruction de plans avant même d'organiser toute la mobilisation qu'ils voulaient. Donc ils sont arrêtés et emprisonnés directement. Les leaders principaux étaient tout ça, donc le mouvement est vraiment coupé relativement net. Ça illustre la collusion qui peut y avoir entre certaines entreprises et les autorités locales de certains pays. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup qui se retrouvent, mais souvent on n'en entend pas parler et ça en reste là. Des personnes qui sont en prison pour avoir essayé de s'organiser ou d'exprimer défendre leurs droits. Mais sur du coup cette situation-là, effectivement, donc comme je l'ai dit, le groupe SOCFIN est présent dans plusieurs pays. Et donc le travail là, de l'association donc, du REACT avait été sur plusieurs années de construire un lien entre les pays où il y a des riverains qui rencontrent les mêmes problèmes. Donc ce travail d'organisation, d'aller dans les villages, de rencontrer les gens qui sont vraiment pas satisfaits par leur situation, qui ont des conflits forts avec l'entreprise, avait été fait donc au Libéria, au Cambodge, en Sierra Leone, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Avec ce travail d'organisation locale, donc la première dimension du REACT, et la deuxième dimension qui est la mise en lien de coordination internationale. Donc ces différents acteurs avaient pu être mis en lien donc par des échanges de lettres, d'informations, de vidéos, etc. Et puis après des conférences téléphoniques donc on a pu organiser entre les différents leaders. Ils ont pu construire leurs revendications communes parce qu'il y a certains problèmes qui sont spécifiques pays par pays à certaines plantations, mais la plupart des problèmes en fait se retrouvent dans tous les pays, dans toutes les plantations là, que j'ai citées. Et donc la première concrétisation de leur alliance, ça a été justement d'écrire une lettre tous ensemble défendant leurs intérêts auprès du groupe, en adressant ça au groupe Bolloré, qui était le dénominateur commun à toutes ces entreprises, à toutes ces plantations. Et donc le 5 juin 2013, devant l'Assemblée générale des actionnaires du groupe Bolloré à Paris, à La Défense, plusieurs personnes, donc ressortissants des pays-là, des Camerounais, des Ivoiriens, des Congolais également, qui sont venus interpeller Vincent Bolloré et déposer en main propre la lettre de ces différentes organisations, des différents riverains, en exprimant leurs différentes revendications. Et donc, voilà, il y a une cinquantaine de personnes devant les actionnaires bien habillés en costard, avec des arrosoirs, des pioches, des bêches, et avec un message clair: nous n'avons plus assez de terre chez nous pour cultiver nos ressources, donc nous venons planter le manioc dans votre pelouse. Et donc voilà, ça avait permis d'interpeller les actionnaires qui rentraient ensuite dans l'Assemblée Générale. Et donc Vincent Bolloré en personne est venu rencontrer les personnes qui étaient présentes en disant: voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal, j'aime beaucoup l'Afrique, j'investis beaucoup en Afrique, je m'engage à faire ce qu'il faut pour régler ces problèmes-là.
C'est gentil. Ah, amen. Oh, merci infiniment.
Ça, moi, je sais que vous voulez aimer.
Voilà, je vais lire. Comment je fais pour vous contacter après? Comment vous faites pour me contacter? Tout est marqué dessus.
Je vous donne ça.
D'accord, vous êtes gentil.
Alors, vous avez ici.
Il y a votre nom et tout ça et un machin. C'est bien. Mais écoutez, je vais faire pour le mieux. Vous savez, on ne peut pas tout savoir, mais c'est bien que vous veniez et que vous vous déplaciez. Voilà, je suis content que vous veniez vous déplacer. Vous savez que j'aime l'Afrique, on investit beaucoup là-bas. En plus, on investit ici dans l'environnement avec les voitures électriques. Je vais construire la première Blue House, la première maison bleue, qui va être une maison avec des panneaux photovoltaïques sur le toit et à l'intérieur, qui aura donc de l'électricité, de l'eau et qui va permettre de faire des hôpitaux, des trucs. Être à votre contact pour savoir ce qui ne va pas.
Mais monsieur Bolloré, est-ce que je peux vous demander quelque chose?
Bien sûr.
Vos contacts.
Alors écoutez, moi je vous propose, vous appeliez Patrick Épinay, qui est à côté de moi tout le temps, qui va rester avec vous, parce que moi j'ai l'Assemblée Générale maintenant, j'ai l'État d'actionnaire. Monsieur Épinay est à votre disposition et je vous assure, je m'en occuperai.
Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur Bolloré, par
rapport à son jour? Bertrand, je propose que vous offriez un coca ou un café à ces jeunes gens qui sont quand même au soleil. Parce que lui est allé.
Bien sûr.
À qui vient ce coca?
Je suis d'accord.
Chez moi.
Mais c'est pas
chez vous.
Vous avez aussi une plantation là-bas.
C'est toujours les mêmes personnes qui ne sont pas nous. C'est ça le problème. Le problème
dans le centre.
C'est les sous-traitants.
C'est
verbal. Oui.
Donc ça a été vraiment la première action, parce que pendant que ces personnes-là, les 50 personnes, étaient devant l'Assemblée Générale du groupe Bolloré à Paris, en même temps, c'était des centaines de personnes au Cameroun, au Cambodge, en Côte d'Ivoire, qui manifestaient devant les sièges des différentes entreprises pour, pareil, faire valoir leurs droits, bloquer l'activité de l'entreprise en attendant. Donc ça a permis de concrétiser vraiment l'alliance entre les différentes organisations de riverains. Donc, pour en revenir à la situation de répression, suite à l'emprisonnement des personnes au Libéria, il y a eu de telles mobilisations. Aujourd'hui, l'Alliance internationale des riverains, donc, qui s'est formée autour de ces pays, donc, regroupe le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et le Cambodge. Et donc, au moment de la répression qu'il y a eu par rapport aux leaders arrêtés au Libéria, ces mêmes personnes se sont mobilisées avec un message clair en disant: voilà, Bolloré a pris notre terre et maintenant notre liberté, et en demandant la libération. Il y a eu plusieurs journaux, plusieurs médias qui ont repris ces articles, le communiqué de presse comme RFI ou Jeune Afrique, beaucoup d'ONG qui ont également relayé l'information. Et donc ça a permis de rendre visible la situation et les autorités locales ont accepté de libérer les leaders, les personnes arrêtées sous caution. Donc après une semaine en prison, ils ont pu être libérés sous caution. Donc ce n'était qu'une victoire provisoire, mais ils ont pu retourner dans leur village et reprendre ce travail de mobilisation.
Quand tu parles de riverains, on est bien d'accord que c'était quand même des villageois et souvent des familles paysannes qui cultivaient des terres et qui étaient éleveurs sur tout un canton. Et à un moment, il y a eu une décision qu'ils n'ont pas prise eux-mêmes, qu'une entreprise s'installe aux portes et chasse même, enfin détruise les villages, enfin ce que tu as un peu décrit. C'est pas vraiment comme si c'était des gens qui habitaient là à côté de quelque chose et puis tout d'un coup une situation s'était dégradée. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un schéma d'accaparement de terres contemporains.
Il y a les deux situations sont présentes. Il y a des plantations comme au Cameroun qui existent depuis plus de 50 ans et donc qui ont des bails emphytéotiques de 99 ans parfois ou comme ça. Et il y a eu un premier changement souvent au moment de la privatisation de ces entreprises où les personnes là, témoignent de changements, de services rendus. Parce qu'il y a, comme les plantations, c'est des milliers d'hectares, donc il faut imaginer des kilomètres et des kilomètres avec les travailleurs. Ils ont des camps de travailleurs, au milieu des plantations, avec des écoles au milieu des plantations, avec un centre de santé parfois ou un hôpital au sein des plantations. Et donc... souvent des missions de service public qui allaient avec ces plantations-là. Donc pour ces entreprises qui étaient présentes depuis des dizaines d'années, la première étape de privatisation, donc, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, donc avec la SOCAPAM ou la SOGB, la privatisation a créé certaines tensions par rapport à des promesses qui avaient été faites de poursuite de services publics, etc., qui n'ont pas été... au niveau de l'attente des riverains. Parfois des contrats qui ont été signés, hein, qui ont été écrits, comme au Liberia, il y a eu des nouvelles, un contrat, des engagements écrits, des promesses faites de construction d'infrastructures, de reconstruction des villages, etc. Et rien n'a été fait concrètement plusieurs années après. Donc il y a ces entreprises-là qui sont là depuis longtemps, il y a eu la privatisation parfois qui a amener de nouvelles tensions. Et ces entreprises qui sont aussi présentes depuis plusieurs années, les expansions sont en fait continues. Et donc c'est la pression montante sur les terres qui sont occupées qui crée ces conflits de plus en plus. Donc effectivement, il y a des choses qui déjà ont posé problème parce qu'il y a des promesses qui ont été faites il y a des années et qui n'ont jamais été tenues. Et en plus, il y a la pression qui augmente sur les terres que les personnes utilisent, les forêts qui sont de plus en plus détruites, etc. Et c'est vrai qu'il y a un élément, c'est que souvent les entreprises ont signé donc un bail emphytéotique avec l'État sur une certaine surface. Et il n'y a encore qu'une partie de ces surfaces qui sont actuellement exploitées. Donc effectivement, il n'y a pas forcément de nouvelles terres occupées par cette entreprise, parce qu'elle avait déjà un accord là-dessus, sauf qu'il n'y a pas, et c'est une des premières choses que les riverains dénoncent, de bornage précis et clair sur le terrain des limites des plantations. Et donc, on se rend compte des terres qui ont été données à l'entreprise ou louées à l'entreprise, parce qu'elle en exploite de plus en plus. Et c'est au moment de l'exploitation de ces nouvelles terres que la pression sur le foncier augmente sur les riverains qui étaient là, qui sont sur ces terrains-là. Mais après, il y a des cas comme au Cambodge, par exemple, ou en Sierra Leone, où les entreprises, là, sont récentes, donc depuis 2010, 2011, 2012, qui se sont installées, effectivement, dans des endroits où il n'y avait pas ces plantations-là, donc il a créé une forte tension par rapport au foncier, quoi. Pour avoir un exemple, en Côte d'Ivoire, c'est à peu près 35 000 hectares qui sont occupés, du coup, qui ont été donnés en bail à l'entreprise. Au Cameroun, il y a plusieurs plantations. Il y a plus de 20 000 hectares de concessions Et en Sierra Leone, pareil, ils ont négocié d'abord 6 000 hectares, puis 6 000 nouveaux hectares, et en fait, ils visent plus de 20 000 hectares d'occupation. Et donc, parfois, il y a eu un processus de discussion avec les autorités traditionnelles, donc les chefs de village, qui ont été impliqués, mais parfois il y a 30 ans, 40 ans, dans la discussion par rapport à l'implantation. Et c'est à ce moment-là que souvent, plusieurs promesses ont été faites de travail pour les populations locales, de développement, d'infrastructures, l'eau, l'électricité, des routes, etc. Mais qui, des années après, les gens ne voyant pas tout ça, essayaient de se mobiliser là-dessus.
Tu peux décrire un peu les formes d'action, comment dans un pays d'Afrique on se mobilise dans ce cadre-là d'action en direct mondiale.
Donc effectivement, ça dépend beaucoup du contexte, mais comme partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique ou en Chine même, il faut pouvoir s'adapter au contexte. Il y a des situations comme en Sierra Leone, où la répression est forte, donc il y a beaucoup de craintes par rapport à ça. Et donc les mobilisations, donc là c'est les gens une fois organisés qui décident en fonction du nombre qu'ils sont, de leurs moyens, quel type d'action ils vont mener. Et ça va de la marche pacifique, où les gens au Libéria, en Sierra Leone, pour eux c'était très important de porter ce message de paix et de non-violence pour être sûr de ne pas avoir de problème avec le paquet de répression. Et donc ils étaient tous habillés en blanc pour pouvoir porter leur message. Et donc des gens qui sont partis là sur la dernière action au Libéria, des 11 villages qui sont touchés, des centaines de personnes qui sont parties des villages habillées tous en blanc pour aller marcher jusqu'à la direction et demander une rencontre avec le directeur. Il y a eu d'autres actions de rassemblement, donc parfois des rassemblements devant une usine pour arrêter les activités de l'entreprise tant que le directeur ne refusait de rencontrer les leaders, les porte-parole. Et donc effectivement des blocages aussi des plantations, comme c'est des gens qui sont sur le terrain, qui habitent dans les villages tout autour de la plantation. Pour eux c'est souvent très facile. Une partie des riverains sont aussi des travailleurs. Il y a des bons liens avec les travailleurs parce que les travailleurs dénoncent eux-mêmes les conditions de travail au sein d'entreprises. Donc voilà, il y a des mobilisations souvent qui ont parfois paralysé les activités, comme au Cameroun, de l'entreprise pendant plusieurs jours pour arriver à ça. Parfois, l'essentiel, c'est déjà de rendre visible le fait qu'il y a un conflit et donc d'avoir une mobilisation de masse pour montrer toutes les personnes qui sont touchées par ces mêmes problèmes. Et l'alliance là, internationale maintenant des riverains des plantations Bouloré et Socfin permet de rendre visible aussi plus facilement dès qu'il y a une mobilisation ou une action à l'échelle internationale, et donc que ça soit relayé également par les médias, etc., pour pas que ce soit un cas isolé parmi d'autres.
Tu disais qu'il y avait des liens entre les riverains et les salariés de la plantation. Et est-ce qu'il y aurait des choses à dire sur des abus de droit du travail à l'intérieur des plantations ou...
Donc effectivement, il y a beaucoup de travailleurs qui dénoncent les conditions de travail, mais également les conditions de vie. Parce que comme je disais, c'est des milliers de travailleurs qui sont présents sur la plupart de ces plantations, donc qui vivent sur les plantations, sur des logements, des camps de travail, des logements qui sont fournis par l'entreprise. Et souvent, ces travailleurs dénoncent la précarité du logement dans beaucoup de pays, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Libéria. C'est des familles entières qui sont dans deux pièces. Donc voilà, il y a des problèmes par rapport à ça. Beaucoup d'autres revendications sur les conditions de travail, sur la sécurité, sur le niveau de revenu, etc., qui sont portées par les syndicats. Et un des problèmes principaux, une des lignes de défense, c'est effectivement qu'il y a, sur la plupart des implantations, les gens sont payés au salaire minimum, quand il y a un salaire minimum, mais il s'agit d'être des employés. Et en fait, on peut voir sur les chiffres que le groupe Socfin donne dans son rapport d'activité, qu'une partie seulement, et même pas la moitié, des travailleurs sont employés. Les autres travailleurs sont des contractuels ou des travailleurs journaliers qui ne sont pas syndiqués, qui n'ont pas les syndicats pour les défendre, et donc qui ont une précarité totale du travail et pour lesquels c'est très difficile de défendre leurs droits. Donc effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont dénoncés par ces travailleurs par rapport aux conditions de vie, conditions de travail sur ces plantations.
Et
Donc je peux expliquer un peu la suite là, donc par rapport à la première action donc simultanée entre les différents pays qui s'étaient regroupés au sein de cette alliance internationale des riverains des plantations. Donc le 5 juin 2013 a permis de faire pression, une première pression sur le groupe Bolloré qui, suite à quelques négociations aller-retour, a accepté de rencontrer pour la première fois des représentants de ces 5 organisations de riverains, donc de ces pays-là, à Paris. Donc c'est le groupe Bolloré qui a pris en charge le fait de faire venir un porte-parole pour chaque organisation en ouvrant les dialogues et les négociations. La difficulté, c'est que le groupe Bolloré s'est positionné en facilitateur de dialogue et le groupe Socfin, qui contrôle directement les plantations, était censé être présent autour de la table de négociation. Il y avait leurs petits cartons sur les tables, mais ils ne sont pas venus et se sont jamais présentés. Donc le groupe Bolloré a entendu les demandes des riverains, donc ils portaient principalement sur les terres avant tout, d'avoir une partie des terres qui soit vraiment rétrocédée pour l'espace vital pour les villageois, sur les compensations par rapport aux terres occupées en termes d'infrastructures sociales et de développement économique, donc sur l'embauche mais aussi du soutien aux planteurs villageois qui existent dans plusieurs pays. Et enfin, une demande par rapport à l'environnement, qui est déjà un audit environnemental, une expertise indépendante, et la protection par rapport à la pollution de l'eau, de l'air, de la terre des différents pays. Donc le groupe Bolloré a entendu ces différentes revendications, s'est engagé à les transmettre au groupe Socfin et à revenir sous un mois avec la réponse du groupe Socfin sur ces différents problèmes. Le groupe Bolloré s'est également engagé à ce moment-là, donc le 24 octobre 2014, à organiser l'année prochaine, l'année d'après, une nouvelle rencontre internationale et de faire son possible pour amener le groupe Socfin sur la table de négociation. Et malheureusement, plusieurs mois après, il n'y avait toujours aucune réponse du groupe Socfin. Et donc c'est ce qui a entraîné, entre avril, mai et juin 2015, une série d'actions, des mobilisations, donc qui ont débuté au Cameroun, et puis au Libéria, et puis au Cambodge, et puis en Côte d'Ivoire, qui se sont terminées au moment de les assemblées générales des actionnaires donc, du groupe Socfin le 27 mai, puis du groupe Bolloré le 5 juin ou le 4 juin. Où le groupe Bolloré, à ce moment-là, s'est réengagé à faire son possible pour emmener Hubert Fabry à la table de négociation. Il s'est réengagé à une nouvelle... Il a maintenu cet engagement de rencontre internationale, mais qui, jusqu'ici, ne s'est pas tenu, n'a pas encore eu lieu. Donc, ces actions, elles ont permis de débloquer des négociations dans certains pays. Donc, au Cameroun, aujourd'hui, et au Cambodge, il y a des plateformes tripartites qui ont été mises en place avec la présence de l'État, de l'entreprise et des représentants des riverains, avec certaines victoires qui ont été obtenues par les riverains, certaines concessions importantes de la part de l'entreprise. Tout dernièrement, au Cameroun, l'entreprise a reconnu la pollution de l'eau, donc le fait que les personnes n'ont pas d'eau potable. Ils s'étaient déjà engagés à livrer de l'eau potable en citerne régulièrement, mais ce n'était pas fait, et l'eau n'était pas de qualité, était reconnue pas être de qualité potable. Donc là, l'entreprise s'est engagée à chaque semaine livrer de l'eau avec une quantité suffisante et avec un contrôle de qualité. Il y a plusieurs choses également. En ce moment, au niveau du Cambodge, ils sont en train de délimiter, donc de se mettre d'accord entre les riverains des villageois et l'entreprise, avec la présence des autorités locales, de l'État, sur les limites entre les villages et les plantations. Donc là, il y a tout un processus de bornage qui est en train d'être fait à ce niveau-là pour pouvoir avancer sur ces problèmes-là. Également, au Libéria, ils sont en train de négocier sur les compensations par rapport aux cultures qui avaient été détruites lors des dernières extensions de la plantation. Mais il y a également des blocages et le groupe refuse toujours, même localement, de négocier en Côte d'Ivoire et en Sierra Leone, où il y a plus de quelques mois, des leaders de l'association Maloa, donc qui est l'association des riverains, ont été emprisonnés à l'issue d'un procès qui a duré 2 ans pour justement destruction de palmiers, de plants de palmiers. Et donc voilà, les gens ont été emprisonnés suite à ça et la Socfin refuse tout dialogue jusqu'ici. Donc l'objectif, c'est de maintenir la pression, de voir comment les gens entre eux peuvent continuer à s'organiser pour et que le groupe Bolloré continue à faire pression sur Sogfin pour amener Sogfin autour de la table de dialogue, qu'il puisse reconnaître les problèmes qui existent sur le terrain et voir comment on peut s'organiser pour les résoudre progressivement.
T'as l'impression que les gens ils sont assez optimistes après ces années de lutte?
Il y a des difficultés dans les pays où ils n'ont rien pu obtenir du tout, où effectivement c'est plus difficile de mobiliser les gens, et là c'est tout le travail là, des associations locales qui essayent de maintenir la mobilisation, de dire il faut au moins qu'on puisse porter nos demandes, nos revendications, qu'on puisse négocier pour essayer de résoudre ces problèmes et d'obtenir des choses. Mais ils voient justement ce qui se passe dans les autres pays, des choses qu'ils ont pu obtenir. Et donc nous, c'est le but hein, d'échanger régulièrement là-dessus, de transmettre les informations, des photos, des vidéos là-dessus, ce qui leur donne du courage. Et effectivement, dans les pays où ils obtiennent quand même petite chose par petite chose, des petites victoires qu'ils arrachent et qui leur montrent qu'ils peuvent effectivement, en s'organisant, en étant ensemble, obtenir plus et aller plus loin. Et maintenant, voilà, ils ont conscience d'être en plus avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde, mais qui ont les mêmes problèmes qu'eux. Ils échangent régulièrement, ils savent qu'ils sont ensemble, et donc ça leur donne le courage de porter ça un peu plus fortement, et même si effectivement c'était une lutte de long terme, de longue durée, de longue haleine, il faut certaines personnes qui soient fortes sur le terrain, mais il y en a qui sont, qui sont forts, qui sont courageux et qui ne lâchent pas tant qu'ils n'auront pas obtenu pour eux ou pour leurs enfants une amélioration de la situation. Effectivement, là, j'ai pas précisé, mais par exemple, au Cameroun, il y a eu des très grosses tensions il y a quelques années, parce que l'entreprise, la Socapan, exploite les terres, donc principalement de palmiers à huile, hein, quelques zones avec de l'EVA, et embauche, sous-traite la sécurité. Donc il y a Africa Security, qui est une entreprise de sécurité, donc une milice sur place, pour garder ces milliers d'hectares de plantations. Et il y a eu des grosses tensions entre les villageois qui étaient autour et les agents de sécurité, allant jusqu'à des conflits qui ont mené à des morts. Il y a eu, et notamment là, un témoignage d'un des membres, d'une personne, une femme du village de Bikondo, qui allait pêcher en fait entre ce village-là et la plantation. C'est une rivière qui fait la limite entre la plantation et le village, et les terres des villageois, les plantations des villageois. Et donc les gens utilisent la rivière pour pêcher, notamment les crevettes. Et donc là, c'est une vieille femme qui allait pêcher régulièrement dans la rivière et qui aurait été interpellée par les agents de la sécurité et violée et frappée, et elle s'est noyée. Ils ont retrouvé le corps plusieurs jours plus tard. Et jusqu'ici, encore aujourd'hui, l'entreprise a donné un peu d'argent pour payer la tombe de la femme, mais il n'y a jamais eu aucun procès ni rien des agents de sécurité là-dessus. Et à un moment donné, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de tensions comme ça, et des conflits parce que les villageois cultivent eux-mêmes de l'huile de palme. Et une partie, il y en a qui peuvent revendre l'huile de palme, par exemple, à l'entreprise ou sur le marché, en fonction de ce qu'ils décident. Et il y avait beaucoup de tensions parce que des abus, apparemment, de la compagnie de sécurité qui rentraient dans les villages, qui rentraient dans les maisons, dénonçant l'utilisation de l'huile de palme comme étant du vol effectué auprès de l'entreprise. Alors qu'effectivement, une grosse partie des villageois ont leur propre plantation d'huile de palme. Et donc il y a eu une période où il y a eu beaucoup, beaucoup de tensions, jusqu'à aller sur ces vraiment des conflits. Et donc depuis quelques années, les tensions se sont apaisées à ce niveau-là. Mais selon les personnes que j'ai revues encore il y a quelques mois, pour eux, justice n'a pas été faite par rapport à ces abus-là, et par rapport notamment au meurtre de cette femme qui allait juste pêcher des crevettes.
Quand tu as parlé de la dimension environnementale, est-ce que potentiellement il y avait des revendications sur...
Ouais, effectivement, c'est une des revendications qui est portée par l'Alliance internationale des riverains, donc qui est présente vraiment dans tous les pays, et plus spécifiquement selon certaines problématiques sur certaines plantations dans certains villages. Donc effectivement, l'environnement, c'est une des préoccupations des villageois, hein, parce qu'ils sont directement concernés par ce problème-là. Et il y a le problème peut-être principal qui est par rapport à l'eau, parce qu'il y a la pollution de l'eau potable, donc de l'eau qu'eux boivent, et il y a quand même beaucoup de produits chimiques malgré certains contrôles, malgré certaines normes ISO 9001 ou autres qui sont utilisées. Et encore dernièrement, sur une des plantations au Cameroun, les villageois ont été témoins de produits qui ont été déversés dans plusieurs rivières et qui ont mené à la mort de tous les poissons du cours d'eau, sachant que c'est de l'eau qu'ils utilisent eux sur leur pour leur usage. Et également sur une des plantations là, à la Kienke au Cameroun, l'eau qui est traitée, qui sort de l'usine, est traitée dans les lagunages, mais qui serait apparemment pas opérationnelle. Il y a des débordements, notamment quand il pleut ou comme ça. Et donc l'eau, avant d'être complètement traitée, retourne dans les cours d'eau qui sont autour. Et ça, c'est les cours d'eau qui sont directement utilisés pour l'usage des riverains. Donc il y a voilà, un problème de pollution d'eau en termes d'eau potable, en termes de poissons, donc les gens peuvent pêcher. Voilà, du coup, là, vraiment alimentation. Et ils le disent eux-mêmes, hein, il y a des rivières où ils pêchent plus. Parce que pour les poissons, il y a de nouveau des poissons, mais les poissons qui sont présents ne sont pas, comestibles, ils ne veulent pas s'en nourrir. Et après, il y a également des problèmes en termes de pollution de l'air. Et donc là, il y a certaines usines qui ont mis en place des filtres, etc., par rapport aux normes que l'entreprise veut obtenir, mais ce n'est pas le cas partout, et donc il n'y a aucune visibilité, surtout pour les riverains, de savoir exactement qu'est-ce qui est mis en place, est-ce que c'est contrôlé ou pas, est-ce qu'il y a des produits qui sont utilisés, etc. Et les produits utilisés dans les plantations se retrouvent également dans la terre ou autre, donc c'est une grosse problématique. Et la demande principale des riverains, c'est déjà d'avoir une visibilité là-dessus, d'avoir une expertise indépendante qui puisse contrôler ce qui se passe, qui puisse faire des prélèvements réguliers et qui puissent communiquer de manière transparente là-dessus. Parce que le groupe Socuin a effectivement maintenant, depuis 2-3 ans, un rapport annuel de sustainability, mais déjà auxquels les riverains n'ont pas forcément accès et qui ne sont pas forcément très précis, plantation par plantation, pays par pays, sur ce qui est, voilà, est effectivement fait sur le terrain ou pas.